Simon Pierre, Sa vie et ses épîtres, par W.T.P. Walston, édition 1950. Chapitre 16. 15 jours avec Paul. Actes chapitre 9. Galates chapitre 1. Or Saul, respirant encore menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, alla au souverain sacrificateur et lui demanda pour Damas des lettres adressées aux synagogues, en sorte que, s'il en trouvait quelques-uns qui fussent de la voie, il les amena, hommes et femmes, liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin, il arriva qu'il approcha de Damas. Et tout à coup, une lumière brilla du ciel comme un éclair autour de lui. Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et entre dans la ville, et il te sera dit ce que tu dois faire. » Et les hommes qui faisaient route avec lui s'arrêtèrent, tout interdits, entendant bien la voix, mais ne voyant personne. Et Saul se leva de terre, et ses yeux étant ouverts, il ne voyait personne. Et, le conduisant par la main, ils l'amenèrent à Damas. Et il fut 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Et le Seigneur lui dit en vision, « Ananias ». Et il dit, « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, et va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car voici, il prie. Et il a vu en vision un homme nommé Ananias entrant et lui imposant la main pour qu'il recouvrât la vue. » Et Ananias répondit, « Seigneur, j'ai ouï parler à plusieurs de cet homme. Combien de maux il a fait à tes saints dans Jérusalem. Et ici, il a pouvoir, de la part des principaux sacrificateurs, de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme m'est un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Car je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. » Et Ananias s'en alla et entra dans la maison, et, lui imposant les mains, il dit, « Saul, frère, le Seigneur, Jésus qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » Et aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, et se levant, il fut baptisé. Et ayant mangé, il reprit des forces. Et il fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha Jésus dans les synagogues, disant que lui est le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui-là qui a détruit à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et qui est venu ici dans le but de les amener liés aux principaux sacrificateurs ?» Mais Saul se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui demeuraient à Damas, démontrant que celui-ci était le Christ. Et des jours en grand nombre s'étant écoulés, les Juifs tinrent conseil ensemble pour le tuer. Mais leur complot fut connu de Saul, et ils surveillaient aussi les portes jour et nuit pour le tuer. Mais les disciples, le prenant de nuit, le descendirent par la muraille en le dévalant dans une corbeille. Et étant arrivés à Jérusalem, ils cherchaient à se joindre aux disciples, et tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût disciple. Mais Barnabas le prit et le mena aux apôtres, et leur raconta comment, sur le chemin, il avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment il avait parlé ouvertement à Damas, au nom de Jésus. Et il était avec eux à Jérusalem, allant et venant, et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Et il parlait et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci tâchaient de le faire mourir. Et les frères, l'ayant su, le menèrent à Césarée et l'envoyèrent à Tarse. Les assemblées donc, par toute la Judée, la Galilée et la Samarie, étaient en paix, étant édifiées, et marchant dans la crainte du Seigneur, et elles croissaient par la consolation du Saint-Esprit. Or il arriva que, comme Pierre parcourait toute la contrée, il descendit aussi vers les saints qui habitaient Lydde, et il trouva là un homme nommé Aîné, qui, depuis 8 ans, était couché sur un petit lit. Il était paralytique. Et Pierre lui dit, « Aîné, Jésus, le Christ, te guérit. Lève-toi et fais-toi-même ton lit. » Et aussitôt il se leva, et tous ceux qui habitaient Lydde et le Saron le virent, et ils se tournèrent vers le Seigneur. Or il y avait à Joppé une femme disciple nommée Tabitha, qui, interprétée, signifie Dorcas. Elle était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes qu'elle faisait. Il arriva en ces jours-là qu'étant tombée malade, elle mourut. Et quand ils l'eurent lavée, ils la mirent dans la chambre haute. Et comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre était dans cette ville, envoyèrent vers lui 2 hommes le priant. « Ne tarde pas de venir jusqu'à nous. » Et Pierre, se levant, s'en alla avec eux. Et quand il fut arrivé, ils le menèrent dans la chambre haute. Et toutes les veuves vinrent auprès de lui en pleurant, et en montrant les robes et les vêtements, toutes les choses que Dorcas avait faites pendant qu'elle était avec elle. Mais Pierre, les ayant tous mis dehors et s'étant mis à genoux, pria. Et, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Et elle ouvrit ses yeux, et voyant Pierre, elle se mit sur son séant. Et lui ayant donné la main, il la leva, et ayant appelé les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Et cela fut connu dans tout Joppé, et plusieurs crurent au Seigneur. Et il arriva qu'il demeura plusieurs jours à Joppé, chez un certain Simon, corroyeur. Galates, chapitre 1er. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux assemblées de la Galatie, grâce et paix à vous de la part de Dieu le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ à un évangile différent, qui n'en est pas un autre. Mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange venu du ciel vous évangéliserait outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, maintenant aussi je le dis encore, si quelqu'un vous évangélise outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à complaire à des hommes? Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ. Or, je vous fais savoir, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme, car moi, je ne l'ai pas reçu de l'homme non plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus-Christ. Car vous avez ouï dire quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais outre mesure l'assemblée de Dieu et la dévastais, et comment j'avançais dans le judaïsme plus que plusieurs de ceux de mon âge dans ma nation, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Mais quand il plut à Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonçasse parmi les nations, aussitôt je ne pris pas conseil de la chair ni du sang, ni ne montai à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je m'en allai en Arabie, et je retournai de nouveau à Damas. Puis, 3 ans après, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai chez lui 15 jours, et je ne vis aucun autre des apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. Or, dans les choses que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. Ensuite, j'allai dans les pays de Syrie et de Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux assemblées de la Judée qui sont en Christ, mais seulement elles entendaient dire « Celui qui nous persécutait autrefois annonce maintenant la foi qu'il détruisait jadis, et elle glorifiait Dieu à cause de moi. » Après l'incident relaté dans le dernier chapitre, Pierre et Jean retournent à Jérusalem en prêchant l'Évangile dans plusieurs villages de Samarie. Acte 8, verset 25. Eux donc, après avoir rendu témoignage et avoir annoncé la parole du Seigneur, s'en retournaient à Jérusalem, et ils évangélisaient plusieurs villages des Samaritains. Leur présence était nécessaire pour encourager l'assemblée de cette ville en but à de grandes persécutions. Dieu allait susciter une œuvre et un serviteur de notre caractère. Avant de poursuivre l'histoire de Pierre, les Actes nous parlent de la conversion de Saul, dont la date se situe apparemment peu après le retour de Pierre à Jérusalem. Saul, appelé plus tard Paul, était bien connu à Jérusalem, et l'événement qui va nous occuper ne se passe pas dans la ville. Saul avait été témoin de la mort d'Étienne et y avait consenti. Saul, respirant encore menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, alla au souverain sacrificateur et lui demanda pour Damas des lettres adressées aux synagogues, en sorte que, s'il en trouvait quelques-uns qui fussent de la voie, il les amena, hommes et femmes, liés à Jérusalem. Versets 1 et 2. Il se fait ainsi l'apôtre de la haine des Juifs contre le Seigneur Jésus. Engagé dans sa triste mission, il approche de Damas lorsqu'une lumière du ciel, plus lumineuse que le soleil, l'éblouit. Il tombe à terre et entend une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Verset 5. Cette gloire et cette voix mettent fin pour toujours à sa carrière de propre volonté. Subjugué et humilié, il répond « « Qui es-tu, Seigneur ?» Verset 5. Il était conscient que c'était la voix de Dieu, mais quelle dut être sa surprise en découvrant que c'était Jésus lui-même, qu'il était le Seigneur de gloire, et qu'il considérait ses serviteurs comme s'ils étaient lui, ses disciples que Saul avait l'intention d'emprisonner et de mettre à mort.
« Je suis Jésus que tu persécutes. »
Verset 6. Ces mots réveillent sa conscience. Il s'imaginait faire l'œuvre de Dieu, Jean 16, verset 2, et découvre que, tout au contraire, il est l'ennemi du Seigneur, le chef des pécheurs. Jean 16, verset 2.
Ils vous excluront des synagogues, même leur vient que quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu.
Il apprend en outre que les saints ne font qu'un avec leur Seigneur en gloire. Cette vérité dirigera sa vie dès ce moment. Complètement brisé, il comprend qu'il n'est ni juif, ni gentil, mais un homme en Christ. Sa vie et son ministère désormais découleront du sentiment qu'il éprouvera d'être uni à Christ en gloire. Saul, se laissant conduire par le Seigneur, se rend à la ville.
Ses yeux étant ouverts, il ne voyait personne, et, le conduisant par la main, ils l'amenèrent à Damas. Et il fut 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Versets 8 et 9. En vision, il voit Ananias qui vient et lui fera retrouver la vue. Et, lui imposant les mains, il dit, « Saul, frère, le Seigneur, Jésus qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit-Saint. » Verset 17. Quelle joie dut-il éprouver en s'entendant appeler « frère » Ananias ne s'était pas trompé, car Saul immédiatement confesse Jésus. Obligé de quitter Damas à cause des Juifs qui, dorénavant, chercheront à le faire mourir, Saul est descendu de nuit par la muraille. À Jérusalem, il sera reçu dans l'assemblée, mais il dut avoir recours à l'appui de Barnabas. On le connaissait et on se méfiait de lui. Ceci se passa probablement à une date postérieure au récit d'Acte 9. Galates, chapitre 1, nous donne davantage de détails.
« Quand il plut à Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler son Fils en moi,
et non pas à moi,
afin que je l'annonçasse parmi les nations, aussitôt je ne pris pas conseil de la chair ni du sang, ni ne montai à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je m'en allai en Arabie, et je retournai de nouveau à Damas. Puis, 3 ans après, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai chez lui 15 jours, et je ne vis aucun autre des apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. »
Galates 1, versets 15 à 19. Dieu n'a pas jugé bon de nous faire savoir ce qui se passa durant ces 15 jours. Nous connaissons ces 2 hommes et nous pouvons être certains que Saul a pris beaucoup avec son frère en Christ, même si le laps de temps ne fut pas très long. Il est possible que Pierre se souvenait de la part prise par Saul à l'occasion de la mort d'Étienne. Est-ce peut-être la raison pour laquelle Paul attendit si longtemps avant de se rendre à Jérusalem? L'assemblée le reçut aussi avec circonspection.
Étant arrivé à Jérusalem, il cherchait à se joindre aux disciples, et tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût disciple.
Verset 26. Il fallut toute l'aide et la recommandation de Barnabas pour le faire admettre par les croyants. La nature de Pierre n'était pas de celle qui entretiennent le soupçon. Paul lui-même était si simple et droit que le cœur du vieil apôtre sera gagné. Plus tard, en effet, il parlera de notre bien-aimé frère Paul. De Pierre 3, verset 15.
Estimez que la patience de notre Seigneur est salut, comme notre bien-aimé frère Paul aussi vous a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée.
Pierre devait désirer entretenir Paul de la vie terrestre du Seigneur, comme de tout ce qui s'était passé avant leur rencontre. Il dut également écouter avec intérêt le récit de la conversion de Saul, de la vision et du message spécial qu'il reçut quant aux gentils. Leur entrevue offre un intérêt particulier, bien que ni eux, ni leur entourage ne comprissent la valeur qu'ils en retireraient pour leur ministère. Une chose est certaine, c'est que, de tous ceux qui vivaient à ce moment-là, ces 2 apôtres sont les plus connus. D'autres peuvent avoir eu une notoriété passagère, ou avoir joué un rôle dans l'histoire, mais ces 2 serviteurs de Dieu gardent une place merveilleuse dans les pages de l'Écriture. Leurs paroles et leurs témoignages furent le moyen de la conversion de milliers d'âmes, et leurs écrits demeurent, pour l'Église, un héritage d'un prix inestimable. Ces 15 jours ne furent pas stériles, car
il était avec eux à Jérusalem, allant et venant, et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Et il parlait et disputait avec les hellénistes. Mais ceux-ci tâchaient de le faire mourir.
Versets 28 et 29. Pour sauver sa vie, les frères l'envoient dans sa propre ville, à Tarse. Cette conversion dut causer une grande joie,
mais aussi un immense soulagement aux chrétiens. Que de remerciements durent monter vers Dieu lorsqu'ils entendaient dire
« Celui qui nous persécutait autrefois annonce maintenant la foi qu'il détruisait jadis. »
Galates 1, verset 23. À ce moment, sous la bonne main de Dieu, les persécutions commencèrent à se calmer et les assemblées de Judée, de Samarie et de Galilée pouvaient être édifiées. Nous retrouvons Pierre, mais en dehors de Jérusalem, pendant qu'il parcourait tout le pays d'Israël. Chapitre 9, verset 32.
Or il arriva que, comme Pierre parcourait toute la contrée, il descendit aussi vers les saints qui habitaient Lydde.
L'Esprit de Dieu nous en informe après la conversion de Paul et avant le récit de son travail, sans doute, pour nous rendre attentifs à l'énergie spirituelle et apostolique de Pierre, au moment où une nouvelle lumière surgissait. L'œuvre de Pierre, comme celle de Paul, sont ainsi entremêlées pour garder l'unité de l'Église. Si Paul fut l'apôtre des gentils, Pierre servit d'instrument pour les amener dans l'Église. Tout d'abord, la place spéciale conférée à Pierre dans l'œuvre du Seigneur nous est présentée de façon frappante dans la guérison d'aînés et la résurrection de Dorcas. Ces deux miracles sont faits parmi les saints et non au dehors. C'est ici, pour la première fois, que nous trouvons ce terme, les saints, dans le Nouveau Testament, appliqué aux croyants. Bien des gens l'appliquent à des morts et le limite à quelques exemples particulièrement en vue, tels que Saint Jean, Saint Pierre. Tous les morts sont nommés ainsi, Matthieu 27, verset 52, mais les actes désignent ainsi les vivants par trois fois, verset 13, 32, 41. Matthieu 27, verset 52.
Beaucoup des saints endormis ressuscitèrent.
Ce terme appartient à tous ceux qui sont nés de l'Esprit et lavés dans le sang du Sauveur, à tous ceux qui sont mis à part pour Dieu. Dans les Épîtres, ce mot désigne les enfants de Dieu. Pour pouvoir le porter, nous devons connaître ce que nous sommes devant Dieu et le réaliser dans la pratique. À Lydde, bourgade entre Jopé et Jérusalem, Pierre trouve quelqu'un qui a été 8 ans au lit. Paralysé.
Aîné, Jésus le Christ te guérit, lève-toi et fais toi-même ton lit.
Verset 34. Ces quelques mots suffisent pour guérir le malade, et tous ceux qui habitaient Lydde et Saron se tournent vers le Seigneur. Dieu use d'un miracle pour convertir toute une contrée, aussi facilement que par des prédications. De Lydde, Pierre est appelé à Jopé, appelé actuellement Jaffa, port important situé sur un promontoire au sud de Césarée. L'occasion est offerte par la mort de Dorcas, femme remarquable car
« elle était pleine de bonnes œuvres et d'aumônes qu'elle faisait ».
Verset 36.
Toutes les veuves vinrent auprès de lui en pleurant et en montrant les robes et les vêtements. Toutes les choses que Dorcas avait faites pendant qu'elle était avec elle.
Verset 39. Son nom signifie « gazelle » en grec et se dit « Tabitha » en syro-chaldéen. Pierre écoute le témoignage laissé par cette femme si profondément aimée. Il met tout le monde dehors, prie et,
se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Et elle ouvrit ses yeux, et voyant Pierre, elle se mit sur son séant. Et lui ayant donné la main, il la leva. Et ayant appelé les saints et les veuves, il leur la présenta vivante.
Versets 40 et 41. Par ce miracle, Dieu désirait fournir un témoignage à la puissance du nom de Jésus. Il donne en outre une place importante à l'apôtre, comme instrument entre les mains de Dieu, aux yeux des croyants et du monde. On constate également la grâce qui réconforte ceux qui pleurent d'une façon inconnue jusqu'alors, sauf pendant que le Seigneur était ici-bas.
Cela fut connu dans tout Joppé, et plusieurs crurent au Seigneur.
Verset 42. Un grand réveil se produit, si bien que Pierre
demeura plusieurs jours à Joppé chez un certain Simon corroyeur.
Verset 43. Depuis là, il est appelé à une œuvre plus importante encore, ainsi que nous le verrons au chapitre suivant. Chapitre 17. Corneille et sa maison. Actes chapitre 10 et chapitre 11, versets 1 à 18.
Or, à Césarée, un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique, pieux et craignant Dieu avec toute sa maison, faisant beaucoup d'aumônes au peuple, et priant Dieu continuellement, vit clairement en vision, environ vers la neuvième heure du jour, un ange de Dieu entrant auprès de lui et lui disant « Corneille !» Et, fixant les yeux sur lui, étant tout effrayé, il dit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et il lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées pour mémorial devant Dieu. Et maintenant, envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, qui a sa maison au bord de la mer. Et quand l'ange qui lui parlait s'en fut allé, Corneille, ayant appelé deux de ses domestiques et un soldat pieux d'entre ceux qui se tenaient toujours auprès de lui, et leur ayant tout raconté, les envoya à Joppé. Or, le lendemain, comme ils marchaient et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit pour prier vers la sixième heure. Et il eut très faim et voulut manger. Et comme on lui apprêtait à manger, il lui survint une extase. Et il voit le ciel ouvert et un vase descendant comme une grande toile liée par les quatre coins et dévalée en terre, dans laquelle il y avait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui fut adressée disant « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non point, Seigneur, car jamais je n'ai rien mangé qui soit impur ou immonde. » Et une voix lui fut adressée encore pour la seconde fois disant « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le tiens pas pour impur. » Et cela eut lieu par trois fois, et le vase fut aussitôt élevé au ciel. Et comme Pierre était en perplexité en lui-même à l'égard de ce qu'était cette vision qu'il avait vue, voici aussi les hommes envoyés de la part de Corneille, s'étant enquis de la maison de Simon, se tenaient à la porte. Et ayant appelé, ils demandèrent si Simon, surnommé Pierre, logeait là. Et comme Pierre méditait sur la vision, l'Esprit lui dit « Voilà, trois hommes te cherchent, mais lève-toi et descends et va avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les ai envoyés. » Et Pierre, étant descendu vers les hommes, dit « Voici, moi, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la cause pour laquelle vous êtes venu ? » Et ils dirent « Corneille, centurion, homme juste et craignant Dieu, et qui a un bon témoignage de toute la nation des Juifs, a été averti divinement par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre des paroles de ta part. » Les ayant donc fait entrer, il les logea, et le lendemain, se levant, il s'en alla avec eux, et quelques-uns des frères de Joppé allèrent avec lui. Et le lendemain, ils entrèrent à Césarée. Et Corneille les attendait, ayant assemblé ses parents et ses intimes amis. Et comme il arrivait que Pierre entrait, Corneille, allant au-devant de lui, se jeta à ses pieds et lui rendit hommage. Mais Pierre le releva, disant « Lève-toi, et moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva plusieurs personnes assemblées. Et il leur dit « Vous savez, vous,
que c'est une chose illicite pour un juif que de se lier avec un étranger ou d'aller à lui. Et Dieu m'a montré à moi à n'appeler aucun homme impur ou immonde. C'est pourquoi aussi, lorsque vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire de difficulté. Je vous demande donc pour quel sujet vous m'avez fait venir. Et Corneille dit, « Il y a 4 jours que j'étais en jeûne jusqu'à cette heure-ci, et à la 9e heure je priais dans ma maison. Et voici, un homme se tint devant moi dans un vêtement éclatant et dit, « Corneille, ta prière est exaucée, et tes aumônes ont été rappelées en mémoire devant Dieu. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, corroyeur, au bord de la mer. Et lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai donc aussitôt envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous présents devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné de Dieu. » Et Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je comprends que Dieu ne fait pas exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Vous connaissez la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Lui est Seigneur de tous. Ce qui a été annoncé par toute la Judée, en commençant par la Galilée, après le baptême que Jean a prêché. Jésus, qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites au pays des Juifs et à Jérusalem, lequel aussi ils ont fait mourir le pendant au bois. Celui-ci, Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et l'a donné pour être manifesté, non à tout le peuple, mais à des témoins qui avaient été auparavant choisis de Dieu, savoir à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il eût été ressuscité d'entre les morts. Et il nous a commandé de prêcher au peuple, et d'attester que c'est lui qui est établi de Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent témoignage que, par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit-Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Et les fidèles de la circoncision, tous ceux qui étaient venus avec Pierre, s'étonnèrent de ce que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les nations, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre répondit, « Quelqu'un pourrait-il refuser l'eau, afin que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit-Saint comme nous-mêmes ? » Et il commanda qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Alors ils le prièrent de demeurer là quelques jours. Or les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les nations aussi avaient reçu la parole de Dieu. Et quand Pierre fut monté à Jérusalem, ceux de la circoncision disputaient avec lui, disant, « Tu es entré chez des hommes incirconcis, et tu as mangé avec eux. » Et Pierre se mit à leur exposer les choses par ordre, disant, « J'étais en prière dans la ville de Joppé, et je vis dans une extase une vision, savoir un vase descendant comme une grande toile dévalée du ciel, par les 4 coins. Et elle vint jusqu'à moi, et y ayant jeté les yeux, je considérai, et je vis les quadrupèdes de la terre, et les bêtes sauvages, et les reptiles, et les oiseaux du ciel. Et j'ouïs aussi une voix qui me dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Et je dis, « Non point, Seigneur, car jamais chose impure ou immonde n'entra dans ma bouche. » Et une voix répondit pour la 2e fois du ciel, « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le tiens pas pour impur. » Et cela eut lieu par 3 fois,
et tout fut de nouveau retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt, trois hommes qui avaient été envoyés de Césarée vers moi se trouvèrent devant la maison où j'étais. Et l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Et les six frères que voici vinrent avec moi, et nous entrâmes dans la maison de cet homme. Et il nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui, se tenant là, lui avait dit « Envoie à Joppé, et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Et comme je commençais à parler, l'Esprit Saint tomba sur eux, comme aussi il est tombé sur nous au commencement. Et je me souvins de la parole du Seigneur, comment il a dit « Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. » Si donc Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir l'interdire à Dieu? Et ayant ouï ces choses, ils se turent et glorifièrent Dieu, disant « Dieu a donc, en effet, donné aux nations la repentance pour la vie. »
Un intérêt très particulier s'attache à cette partie du livre des Actes, car elle nous montre comment nous, les gentils, pouvons être sauvés, et la bénédiction qui nous atteint. Dieu veillait sur cet homme, anxieux de recevoir la lumière, et sur le serviteur qui la lui apporta. Remarquons que chacun d'eux était en prière au moment où la vision lui apparut. Chapitre 10, verset 30 et 11, verset 5. Corneille était probablement converti, mais ne possédait pas la paix ni le pardon, et désirait recevoir ce qui lui manquait. Son caractère moral nous le rend fort sympathique. Un gentil, de noble naissance peut-être, étant donné ses rapports avec la légion romaine, un homme pour lequel les Juifs devaient éprouver de l'estime. Il craignait Dieu avec toute sa maison, c'est-à-dire avec ses enfants et ses domestiques. Il faisait beaucoup d'aumônes, donc il pensait aux autres et s'y intéressait.
Et il priait Dieu continuellement.
Homme de prière, dans lequel l'Esprit de Dieu travaillait et provoquait des besoins spirituels. Homme pieux, certes, mais qui ne connaissait pas la valeur du sang de Christ, car le pardon et l'Évangile n'avaient pas encore été annoncés aux gentils. Dieu connaissait les désirs de son cœur et envoie l'ange lui dire
« Corneille, ta prière est exaucée. »
Chapitre 10, verset 31. Ainsi qu'il le raconte à Pierre. On commençait à entendre parler du christianisme. Les Juifs affirmaient hautement obéir à la loi de Dieu, de sorte que toute personne pieuse pouvait à bon droit se demander où était la vérité.
Philippe évangélisait toutes les villes jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Césarée.
Chapitre 8, verset 40. La nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus se répandait, et Corneille avait sans doute demandé à Dieu de l'éclairer. Ainsi cet homme né de l'Esprit, Dieu ne l'aurait pas accepté autrement, bien que l'ange lui eût dit
« Tes prières et tes aumônes sont montées pour mémorial devant Dieu. »
Touché, inquiet, exercé par l'Esprit de Dieu, mais ne connaissant pas la vérité, a une vision. Pendant qu'il priait,
« Un homme se tint devant moi, »
narre-t-il,
« dans un vêtement éclatant et dit « Corneille, ta prière est exaucée. » Et tes aumônes ont été rappelées en mémoire devant Dieu. Envoie donc à Joppé, et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, corroyeur, au bord de la mer. Et lorsqu'il sera venu, il te parlera.
Chapitre 10, verset 30 à 32. Pour être sauvé, il ne lui est pas dit de faire des œuvres, mais d'écouter. Quand Pierre raconte l'histoire à l'assemblée de Jérusalem, il ajoute
« Simon, qui est surnommé Pierre, te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. »
Chapitre 11, versets 13 et 14. En envoyant ce premier message aux gentils, Dieu insiste sur le fait qu'il fallait écouter. personne n'a jamais été sauvé par ses propres œuvres, et personne n'a été sauvé sans croire à la parole de Dieu.
J'ai donc aussitôt envoyé vers toi,
verset 33, dit Corneille. Son obéissance immédiate et sans discussion prouve son sérieux et sa ferveur. Il n'attend pas, là où quelqu'un d'autre aurait peut-être voulu réfléchir, espérant recevoir des explications supplémentaires. Tout après le départ de l'ange, il envoie trois domestiques à Joppé. Il ne perd pas un instant, pourtant les voyages n'étaient guère rapides, et les hommes durent s'arrêter quelque part pour la nuit. Verset 9. Quant à l'apôtre, Dieu le préparait également à rencontrer le gentil. Il monte sur le toit de la maison pour prier, vers la sixième heure, midi environ, pas l'heure habituelle de la prière. Une fois déjà, Pierre avait été averti de veiller et de prier, et il ne l'avait pas fait. Mais ici il prie et le Seigneur lui apparaît en vision.
Il voit le ciel ouvert, et un vase descendant comme une grande toile liée par les quatre coins et dévalée en terre, dans laquelle il y avait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui fut adressée, disant, « Lève-toi, Pierre, tu et mange. » Et Pierre dit, « Non point, Seigneur, car jamais je n'ai rien mangé qui soit impur ou immonde. » Et une voix lui fut adressée encore, pour la seconde fois, disant, « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le tiens pas pour impur. » Et cela eut lieu par trois fois, et le vase fut aussitôt élevé au ciel.
Versets 11 à 16. On a cru qu'il s'agissait de l'Église ici, mais Pierre n'est pas le vase employé par Dieu pour révéler la vérité concernant l'Église. Cette mission sera réservée à Paul. La vision avait pour but d'enseigner à Pierre que la croix a supprimé les barrières existantes entre juifs et gentils, que la grâce de Dieu est répandue sur chacun indifféremment, et que la même puissance apporte à tous la bénédiction. Incapable d'interpréter le sens de ces choses, il en cherche la signification lorsque les hommes, envoyés par Corneille, arrivent à la porte. Dieu n'envoie pas un ange, mais un serviteur pour l'appeler.
L'Esprit lui dit, « Voilà, trois hommes te cherchent, mais lève-toi et descends, et va avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les ai envoyés. »
C'est 19 et 20. L'apôtre commence à comprendre. Jusqu'alors, comme tout bon juif, il n'avait entretenu aucune relation avec ceux qui ne l'étaient pas. Mais la conception nouvelle veut que,
il n'y a pas grec et juif, circoncision et incirconcision, barbare, scythe, esclave, homme libre, mais où Christ est tout et en tous.
Colossiens 3, verset 11. Lui, Pierre, était le vase choisi pour l'appel des nations, bien que Paul fût distinctement l'apôtre des gentils. Sous la loi, Dieu avait défendu aux juifs de se mêler aux autres peuples. Cette époque était révolue. Ce que Dieu a purifié ne peut plus être considéré comme impur. L'apôtre met tout de suite cette vérité en pratique. Il fait entrer les hommes et les loges. Verset 23. Nous avons remarqué quel homme impulsif, bouillant, étourdi était Pierre. Mais, en ce cas, il se montre particulièrement prudent. Il prend avec lui six frères. Chapitre 10, verset 23 et 11, verset 12. Comme témoin de l'œuvre que Dieu allait accomplir. En l'attendant, Corneille est anxieux de faire partager à d'autres la bénédiction et la lumière.
Corneille les attendait, ayant assemblé ses parents et ses intimes amis.
Verset 24. Toute personne que Dieu désirait bénir. La maison est pleine.
Pierre trouva plusieurs personnes assemblées.
Verset 27.
Et il leur dit. Vous savez, vous, que c'est une chose illicite pour un juif que de se lier avec un étranger ou d'aller à lui. Et Dieu m'a montré, à moi, à n'appeler aucun homme impur ou immonde. C'est pourquoi aussi, lorsque vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire de difficulté.
Verset 28-29. Il a saisi la clé de la difficulté à laquelle il réfléchissait. En obéissant, il a nettement compris que la grâce de Dieu se répandrait désormais jusqu'aux confins de la terre. Il éprouve Corneille et cherche à connaître l'état réel de son âme.
« Je vous demande donc pour quel sujet vous m'avez fait venir ?»
Verset 29. Corneille reprend sa propre histoire avec un détail de plus. Il jeûnait en même temps qu'il priait.
« Il y a 4 jours que j'étais en jeûne jusqu'à 7 heures-ci, et à la 9e heure je priais dans ma maison. »
Verset 30. Et, après avoir mentionné la visite de l'ange, il ajoute
« Maintenant donc, nous sommes tous présents devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné de Dieu. »
Verset 33. Pierre savait, avant de commencer à prêcher, que ces gens étaient tous ardemment désireux de connaître la vérité. Il leur parle donc sans crainte.
« En vérité, je comprends que Dieu ne fait pas exception de personne. » Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable.
Versets 34 et 35. La grâce divine s'étend au monde entier, et, où que ce soit qu'il y ait une âme cherchant Dieu, cette âme sera bénie.
Vous connaissez la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui est Seigneur de tous.
Verset 36. On savait déjà que Jésus était Seigneur des Juifs, mais personne n'aurait jamais pensé qu'il pût être Seigneur de tous. En un court verset, Pierre résume toute la vérité contenue dans l'Évangile selon Matthieu.
On appellera son nom Emmanuel. Ce qui, interprété, est « Dieu avec nous ».
Matthieu 1, verset 23. Il reprend ces 3 vérités. « Dieu avec nous », verset 38. « Dieu pour nous », verset 40 à 43. Et « Dieu en nous », verset 44 à 47. « Dieu avec nous », c'est toute la vie de Jésus qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, car Dieu était avec lui.
Et nous, nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites au pays des Juifs et à Jérusalem, lequel aussi ils ont fait mourir, le pendant au bois.
Verset 38-39. Il n'incrimine pas ses auditeurs d'avoir eu part au crime, mais il leur en donne néanmoins tous les détails.
Celui-ci, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et l'a donné pour être manifesté, non à tout le peuple, mais à des témoins qui avaient été auparavant choisis de Dieu, savoir à nous, qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il eût été ressuscité d'entre les morts.
Versets 40 et 41. Celui que l'homme a refusé, Dieu l'a ressuscité et l'a élevé dans la gloire, telle est la seconde vérité. Dieu pour nous. Aucun doute ne peut subsister quant à sa résurrection. L'apôtre lui-même l'a vu, il a même mangé et bu avec lui. Il se souvient du morceau de poisson cuit et du rayon de miel. Luc, chapitre 24, que le Seigneur avait accepté après sa résurrection. De la braise et du poisson mis dessus, quand le Seigneur l'a offrit à dîner, à lui et à ses 6 compagnons, au bord de la mer de Tibériade. Jean chapitre 21. Par sa mort, Jésus a fait une œuvre qui glorifie Dieu éternellement, et sa résurrection est la réponse de Dieu à cette œuvre. C'est pourquoi
il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi de Dieu juge des vivants et des morts.
Verset 42. Sa victoire comme homme sur la mort lui confère le titre de juge. Voir Jean chapitre 5, versets 21 à 27.
Car comme le Père réveille les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu'il veut. Car aussi le Père ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis que l'heure vient, et elle est maintenant que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils aussi d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné autorité de juger aussi, parce qu'il est Fils de l'homme.
Mais avant le jour du jugement vient le jour où il sauve.
Tous les prophètes lui rendent témoignage que, par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés.
Verset 43. Avant de juger l'homme, Dieu lui fait connaître ces deux vérités, le pardon offert à quiconque croit à son Fils, et le Saint-Esprit qu'il envoie pour habiter dans chaque croyant.
Comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole.
Verset 44. Ils reçoivent le sceau de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, celui qui éloigne toute crainte, en nous faisant comprendre que Christ est mort sur la croix pour nous sauver. La descente du Saint-Esprit est en rapport intime avec cette révélation. Qu'est-ce qui apporta cette immense bénédiction dans ce chapitre 10? Ils crurent au Seigneur Jésus. Comme des âmes simples, ils crurent la parole, et Dieu leur envoya le Saint-Esprit. Ils ne le reçoivent pas comme une aide pour croire, mais comme sceau de leur simple foi au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est descendu pour me parler des pensées de Dieu au sujet de Jésus. Du moment que je crois, il vient habiter dans mon cœur comme le Consolateur. Donc, Dieu en nous, c'est le don du Saint-Esprit.
Nous ne pouvons pas ôter à ces gens leurs privilèges, poursuit Pierre.
Quelqu'un pourrait-il refuser l'eau pour que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous-mêmes?
Verset 47. Non, dit-il. Ils ont reçu le Saint-Esprit, leurs péchés sont pardonnés, ils doivent être introduits dans la maison de Dieu sur la terre. Voici la seconde occasion pour Pierre d'user des clés du royaume des cieux. Il a ouvert la porte aux gentils.
À son retour à Jérusalem, l'assemblée interroge l'apôtre sur les événements de Césarée.
Ceux de la circoncision disputaient avec lui, disant, « Tu es entré chez des hommes incirconcis, et tu as mangé avec eux. »
Chapitre 11, verset 3. Pierre reprend le récit détaillé de sa visite et conclut.
« Comme je commençais à parler, l'Esprit-Saint tomba sur eux, comme aussi il est tombé sur nous au commencement. Et je me souvins de la parole du Seigneur, comment il a dit, « Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit-Saint. » Si donc Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir l'interdire à Dieu?
Versets 15 à 17. Ses auditeurs ne surent que répondre à pareils arguments et…
Ils se turent et glorifièrent Dieu, disant, « Dieu a donc, en effet, donné aux nations la repentance pour la vie. »
Verset 18. Il est important de saisir la portée de cet événement. L'Église de Dieu, l'Assemblée, existait déjà, mais la doctrine de son unité, comme corps de Christ, n'avait pas encore été proclamée. La réception de Corneille et de ses amis par Pierre ne l'annonçait pas encore. Paul la révélera. Mais cela prouvait que, en toute nation, quiconque craignait Dieu lui était agréable et qu'il n'était pas nécessaire d'être juif pour obtenir le salut. Cela préparait le chemin aux révélations de Paul, le mystère de l'épître aux Éphésiens.
Les nations, cohéritières et d'un même corps et coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile.
Éphésiens 3, verset 6. On ne résiste pas à Dieu. Aussi, après ces explications, il est beau de lire qu'ils glorifièrent Dieu, c'est-à-dire qu'ils le louèrent pour sa grâce envers les gentils. Pierre dut éprouver un grand soulagement, quand même lui et tous les croyants étaient fortement imprégnés de l'éducation juive qu'ils avaient reçue. Malheureusement, l'apôtre attachait encore trop d'importance à l'opinion des hommes et négligeait l'Écriture qui dit
« La crainte des hommes tend un piège »
Proverbe 29, verset 25. Ce que fut ce piège, nous allons le voir. Chapitre 18. Il sort de prison. Acte chapitre 12.
Or, vers ce temps-là, le roi Hérode mit les mains sur quelques-uns de ceux de l'assemblée pour les maltraiter, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il continua en faisant prendre aussi Pierre. Or, c'était les jours des pains sans levain. Et quand il l'eut fait prendre, il le mit en prison, et le livra à quatre bandes de quatre soldats chacune pour le garder, voulant, après la Pâque, le produire devant le peuple. Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'assemblée faisait d'instantes prières à Dieu pour lui. Mais lorsque Hérode allait le produire, cette nuit-là, Pierre dormait entre deux soldats liés de deux chaînes, et des gardes, devant la porte, gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la prison. Et, frappant le côté de Pierre, il le réveilla, disant, « Lève-toi promptement !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Ceins-toi, et chausse tes sandales !» Et il fit ainsi. Et il lui dit, « Jette ton vêtement sur toi et suis-moi. » Et sortant, il le suivit. Et il ne savait pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, mais il croyait voir une vision. Et ayant passé la première et la seconde garde, ils vinrent à la porte de fer qui conduit à la ville, et elle s'ouvrit à eux d'elle-même. Et étant sortis, ils allèrent jusqu'au bout d'une rue, et aussitôt l'ange se retira d'avec lui. Et Pierre, étant revenu à lui, dit, « Je connais à présent certainement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple des Juifs. » Et s'étant reconnu, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où plusieurs étaient assemblés et priaient. Et comme il heurtait à la porte du vestibule, une servante nommée Rhode vint pour écouter. Et reconnaissant la voix de Pierre, de joie elle n'ouvrit point le vestibule, mais étant rentrée en courant, elle rapporta que Pierre se tenait devant le vestibule. Et ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirmait qu'il en était ainsi. Et il disait, « C'est son ange !» Et Pierre continuait à heurter, et quand ils eurent ouvert, ils le virent et furent hors d'eux. Et leur ayant fait signe de la main de se taire, il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison. Et il dit, « Rapportez ces choses à Jacques et aux frères. » Et sortant, il s'en alla en un autre lieu. Mais le jour étant venu,
Il y eut un grand trouble parmi les soldats au sujet de ce que Pierre était donc devenu. Et Hérode, l'ayant cherché et ne l'ayant pas trouvé, fit subir un interrogatoire aux gardes et donna ordre qu'ils fussent emmenés au supplice. Et descendant de la Judée à Césarée, il y séjourna. Or, il était très irrité contre les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils vinrent à lui d'un commun accord, et ayant gagné Blaste, le chambellan du roi, ils demandèrent la paix, parce que leur pays était nourri par celui du roi. Et, à un jour marqué, Hérode, revêtu d'une robe royale, et assis sur une estrade, les haranguait. Et le peuple s'écriait « Voix d'un dieu et non pas d'un homme !» Et à l'instant un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu, et, étant rongé par les vers, il expira. Mais la parole de Dieu croissait et se multipliait, et Barnabas et Saul, ayant accompli leur service, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant aussi avec eux Jean, qui était surnommé Marc.
Environ une année après les événements relatés au chapitre précédent, les persécutions contre les chrétiens reprirent. La famine régnait, et Barnabas et Saul furent envoyés à l'aide des pauvres de Judée.
Le roi Hérode mit les mains sur quelques-uns de ceux de l'assemblée pour les maltraiter.
Verset 1. Cet Hérode était le petit-fils de Hérode le Grand, qui ordonna le massacre de Bethléem au moment de la naissance du Seigneur, et le père du roi Agrippa, devant lequel comparut Paul. Il est généralement connu dans l'histoire sous le nom de Hérode Agrippa I. Son but essentiel consistait à vivre en bon terme avec tout le monde, par n'importe quel moyen. Cette vanité se combinait à une attention pointilleuse au rite de la religion juive, afin d'être bien vu de ses sujets. C'est pour se concilier leur faveur qu'il persécuta à nouveau les chrétiens. Sa première victime fut Jacques.
Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean.
Verset 2. L'un des trois apôtres présents à la résurrection de la fille de Jaïrus, à la transfiguration sur la montagne et à l'angoisse du Seigneur au jardin de Gethsémané. Avec son frère, Jésus l'avait surnommé
« Boanerges, ce qui est fils de tonnerre »
Marc 3, verset 17. Bien qu'il ne soit pas fait mention de sa vie dans l'Écriture, il doit avoir été un homme proéminent dans l'assemblée de Jérusalem. Quoi qu'il en soit, Hérode le fait mettre à mort. Sa mère, Salomé, avait prié une fois
« Que mes deux fils que voici s'asseyent l'un à ta droite et l'un à ta gauche dans ton royaume. »
À quoi Jésus avait répondu
« Pouvez-vous boire la coupe que moi je vais boire ?» Ils lui disent « Nous le pouvons. »
Matthieu 20, versets 21 et 22. Ce moment était venu pour l'un des deux frères. L'autre la boira plus tard. Jean fut probablement le dernier des apôtres à souffrir le martyre, mais Jacques avait été le premier. Sa carrière fut courte, car il meurt environ 12 ou 13 ans après la crucifixion. Aucun détail ne nous est donné, mais nous pouvons être certains d'une chose, c'est que la prière de sa mère ne resta pas sans réponse et que, au dernier moment, et fut soutenu par la grâce de Dieu. Voyant que la mort de Jacques plaisait aux Juifs, Hérode met la main sur Pierre aussi, avec l'intention de le mener à l'échafaud après la Pâque. Il croyait avoir fait là une action d'éclat, et se préparait à monter un grand spectacle public à cette occasion. Mais, comme Pierre, une fois déjà, était sorti de prison d'une façon extraordinaire, acte chapitre 5, le roi
le livra à 4 bandes de 4 soldats chacune pour le garder.
Verset 4. 2 soldats étaient attachés à lui, d'autres gardaient les portes. Que de précautions pour un seul homme! Hérode comptait sans Dieu. Pierre, confiant, s'endort paisiblement, sachant que le Seigneur pouvait le délivrer encore s'il le jugeait bon.
Pierre, donc, était gardé dans la prison, mais l'assemblée faisait d'instantes prières à Dieu pour lui.
Verset 5. Il eût été vain de chercher à fléchir le roi. Leur seule ressource était de s'adresser à Dieu, car le cas semblait désespéré. Quand le Seigneur était sur la terre, il avait dit
« Je vous dis encore que si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. »
Matthieu 18, versets 19 et 20. Les croyants mettaient ces paroles en pratique, et, à l'arrivée de Pierre,
ils étaient assemblés et priaient.
Verset 12. Le jour approchait où l'apôtre allait être mené à l'échafaud. Mais Dieu donna une réponse à la foi de ces quelques-uns. Ainsi, l'homme propose, et Dieu dispose. La parole ne nous donne aucun détail sur les sentiments et les pensées de Pierre pendant son emprisonnement. Nous savons que, la nuit précédant son exécution, il dormait. Il avait enlevé ses sandales et dégagé ses vêtements. Ce geste témoigne de son entière confiance dans le Seigneur, d'une conscience et d'un cœur parfaitement tranquilles. Dieu choisit son moment pour faire sa volonté. Il envoie un ange dans la cellule du dormeur et
une lumière resplendit dans la prison.
Verset 7. Dieu apporte toujours la lumière. Les deux gardiens de Simon dormaient aussi, car ils ne virent pas la lumière et ils n'entendirent pas la voix. L'ange frappe le côté de Pierre pour le réveiller et lui ordonne
« Lève-toi promptement !» Et les chaînes tombèrent de ses mains.
Verset 7. Quand Dieu desserre les entraves de l'homme, le travail se fait rapidement et sans bruit. Le cliquetis des chaînes qui tombaient n'a pas même réveillé les gardiens.
« Seigne-toi et chausse tes sandales. »
Verset 8. Aucune hâte. Tout se fait avec précision et avec ordre. Puis,
« Jette ton vêtement sur toi et suis-moi. »
Verset 8.
Ils ne savaient pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, mais ils croyaient voir une vision.
Verset 9. Pierre suit son guide. Il passe la première et la seconde garde sans être inquiété et…
Ils vinrent à la porte de fer qui conduit à la ville, et elle s'ouvrit à eux d'elle-même. Et… Étant sortis, ils allèrent jusqu'au bout d'une rue, et aussitôt l'ange se retira d'avec lui.
Verset 10. Pierre se trouvant dans un lieu connu. Imaginons l'état d'hébétude dans lequel se trouvait l'apôtre. Brusquement réveillé d'un profond sommeil, le voici dans la rue. Il s'était endormi, croyant aller à la mort le matin. Il avait entendu un ange, s'était habillé, et tout d'un coup se trouve en liberté, dans une rue bien connue.
Et Pierre, étant revenu à lui, dit « Je connais à présent certainement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple des Juifs. »
Verset 11. Il reconnaît que la main du Seigneur s'est étendue sur lui, et,
s'étant reconnu, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où plusieurs étaient assemblés et priaient.
Verset 12. Au moment où les croyants adressaient des prières ferventes à Dieu pour l'apôtre, il arrive d'une façon intempestive et frappe à la porte. Rhode, la servante, vient s'informer quel est ce visiteur inattendu. En reconnaissant la voix de Pierre, elle n'ouvre pas, mais de joie elle court porter l'heureuse nouvelle. « Tu es folle, disent-ils, au lieu de réaliser la grâce de Dieu. » Ils ne songent pas non plus à vérifier ses dires. Et, devant les affirmations réitérées de la jeune fille, ils ajoutent
c'est son ange. »
Incrédule, il croyait que Rode avait une vision.
Mais Pierre continuait à heurter,
verset 16, si bien qu'ils se décident à aller ouvrir, et
« ils le virent et furent hors d'eux »,
verset 16, notre foi est si faible que, lorsque Dieu exauce notre prière, nous nous étonnons. Si nous étions simples et vrais devant lui, nous serions surpris de ce que la réponse se fait attendre. Dieu aime répondre aux prières de ses enfants. Il aime que nous nous attendions à lui.
Sans la foi, il est impossible de lui plaire.
Hébreux 11, verset 6. L'apparition de l'apôtre produit un effet extraordinaire, mais,
leur ayant fait signe de la main de se taire, il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Et il dit, « Rapportez ces choses à Jacques et aux frères. »
Verset 17. Bien que libre, Pierre comprend le danger qui le menace, mieux que ses amis, et il leur recommande de ne rien divulguer.
Le jour étant venu, il y eut un grand trouble parmi les soldats au sujet de ce que Pierre était devenu.
Verset 18. Il était entre les mains de Dieu, et Rode ne pouvait pas le trouver. Déçu dans ses plans sanguinaires, le roi déverse sa colère sur les gardes de la prison, puis se rend à Césarée où il meurt, sous le jugement de Dieu, d'une horrible maladie. L'Esprit de Dieu se hâte d'ajouter au verset suivant, en contraste avec ce caractère méchant,
« Mais la parole de Dieu croissait et se multipliait. »
Verset 24. Retenons de ceci le contraste marqué entre les plans humains et l'intervention divine, en même temps que l'efficacité et la puissance de la prière. Que cela nous encourage à compter sur Dieu et à persévérer dans la prière faite avec foi. Le cas semblait totalement désespéré, mais Dieu est pourvu largement. Nous manquons de foi et d'assiduité pour assiéger le trône de la grâce. Nous pouvons bien lui dire
« Seigneur, enseigne-nous à prier. »
Luc 11, verset 1. Le chapitre se termine par ces mots.
Barnabas et Saul, ayant accompli leur service, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant aussi avec eux Jean, qui était surnommé Marc.
Verset 25. Paul se trouvait donc à Jérusalem quand Pierre fut jeté en prison. Quelle joie dut être la sienne en voyant Simon de nouveau en liberté, prêt à continuer le travail du Seigneur. Dès lors, Paul semble devenir l'instrument spécial de l'Esprit. Pierre occupe le second plan et ne réapparaît que momentanément au chapitre 15.